écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours adaptés aux situations diverses de chacun, au sein de l'Institut de formation psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité, avec les autres aussi, et cela dans la perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, comment gérer les TOC? Alors, les TOC, c'est-à-dire...
Voilà, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs.
Voilà, c'est... Voilà, ça toque, voilà, mais il vaut mieux préciser voilà. Que chacun...
Et en même temps, c'est assez passé dans le langage,
langage courant.
D'ailleurs, les gens... parle TOC sans trop savoir que c'est un trouble obsessionnel compulsif.
Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux le traduire, quoi. Donc le TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Alors, lorsqu'on parle de TOC, quoi pense-t-on?
Souvent, on pense à des choses invalidantes, hein, parce que ça peut être très grave, hein, parfois les TOC, ou en tout cas très invalidants. Mais quand on regarde, il y a beaucoup de personnes qui ont des petites habitudes ou des gestes qui, même si on pourrait pas vraiment dire que ce sont des TOC, justement parce que on verra la définition qu'il n'y a pas le côté invalidant, ils ressemblent,
oui.
Ou en tout cas, soit sous une forme atténuée, donc ça sera un tout petit TOC.
Il y a des petits tocs et des grands, oui.
Voilà.
Oui.
Ou un toc pas grave.
Atténué, voilà. Oui.
Ou alors, parfois, ça peut être des prémices. Hein.
Ah oui.
Voilà, la mise en place ou la racine, en quelque sorte, de ce qui pourrait donner des tocs plus tard.
D'accord.
Voilà, et en même temps, faut pas s'affoler, hein, ça fait partie de la vie. D'avoir des rituels. Hein,
mais pas forcément des TOC. Des rituels, c'est pas forcément des TOC.
Quand ce ne sont pas des rituels religieux, d'aller à la messe ou...
Oui. Voilà, des rituels de dans la vie, d'avoir des petites habitudes, peut-être, on peut dire, non? Des rituels qui soient comme des...
Oui, mais quand c'est répétitif,
oui.
Ou quand il faut que ça soit absolument fait d'une certaine façon,
oui.
À ce moment-là, c'est un peu de l'ordre obsessionnel.
D'accord.
Hein? Donc, on rentre dans la catégorie des TOC, même si c'est pas pathologique. Mais en tout cas, c'est pas anormal. On a tous nos petits rituels, voilà. Mais c'est quand même le signe d'une certaine anxiété. Et d'ailleurs, on voit que souvent, quand il y a du stress ou quand il y a des difficultés personnelles, ces rituels-là, ils augmentent.
C'est pour se rassurer que...
Voilà, c'est une façon de se rassurer, c'est une façon de contrôler son environnement pour mieux contrôler sa pensée, finalement, ou son ressenti.
Hein. D'accord. Mais est-ce que... c'est conscient ou c'est pas conscient?
Alors, c'est conscient, mais involontaire.
C'est conscient, c'est quand même, mais involontaire, oui. Ah. Vous êtes involontaire, c'est-à-dire que on se sent comme poussé à le faire.
La personne a subi le TOC, elle n'a pas le choix, elle voudrait bien s'en débarrasser. Elle est consciente qu'elle est en train de faire un rituel. Et en même temps, elle n'a pas d'autre choix, sinon elle est prise d'angoisse ou elle va ressentir un mal-être intense.
Mm-hmm.
Du coup, c'est le seul moyen qu'elle a.
Ah oui.
qu'elle choisit pas vraiment, d'ailleurs.
Non, non.
Hein.
Qu'elle subit.
Qu'elle subit. Oui. Alors, mais tout en étant consciente. Mmh. Alors, derrière, il y a toute une partie qui est inconsciente. Mais le toc en lui-même, oui. le rituel en lui-même, la personne se
oui,
s'en rend compte.
Bien ce qu'elle fait, quoi.
Et d'ailleurs, souvent, ça la fait d'autant plus souffrir. Parce qu'elle s'en rendrait pas compte, ben, ça,
oui.
elle en souffrirait pas. Oui. Le fait de subir un toc, ben, la personne en souffre et ça augmente, et sa détresse et sa culpabilité.
Alors, donc, vous disiez que il y a rien d'anormal d'avoir
des petits rituels dans la vie. Alors, les tocs, c'est beaucoup plus gênant et ça empêche la personne d'avoir une vie normale. Ou en tout cas, la personne le vit comme quelque chose de subi et d'invalidant parce que ça lui prend beaucoup de temps.
Ah oui.
Et dans ce cas-là, ben, ça constitue un trouble psychologique.
Ça lui prend beaucoup de temps parce que elle prend du temps pour... ça lui prend beaucoup de temps
pour exécuter le rituel.
Ah oui. Alors qu'elle pourrait être dans la vie, dans ce qu'elle a à faire.
Voilà. Si on prend un toc de se laver les mains, par exemple, ben, la personne va se laver les mains plusieurs fois... Et au lieu de partir au boulot, elle va passer
son temps à se laver les mains.
Une demi-heure, une heure à se laver les mains, à commencer à partir, à retourner laver les mains.
Ça l'empêche de partir. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui la retient, donc une sorte d'angoisse inconsciente, quoi.
Voilà. Alors, en fond, il y a une angoisse. Souvent, c'est des angoisses liées à des phobies des microbes. Mais... Voilà. Ce qui prend le pas, là, dans ce cas-là, c'est le toc de se laver les mains. Et tout le temps que ça prend, toute la culpabilité qu'a la personne à pas pouvoir faire autrement.
Mais est-ce que ça peut être justement ce rite, dans un cas précis, là, c'est... parce qu'elle a peur de partir au travail. Si ça cache une angoisse, ça peut être ça, par exemple?
Non.
C'est pas directement lié
au fait d'aller au travail.
C'est plus
beaucoup
amont,
plus inconscient que ça. Oui.
Donc ça remonte. C'est quelque chose qui est enfoui.
Voilà, c'est une phobie. Alors en général, si on se prend ce cas-là, les phobies, on en reparlera après. C'est plus en lien avec tout ce qui peut séparer. Donc c'est une angoisse de séparation qui est en amont.
Une angoisse dans le cas de la phobie.
Oui.
Une angoisse de séparation.
Voilà.
En amont.
Donc, mais qui n'est pas consciente et qui se manifeste à travers des choses comme attraper des microbes. On peut être malade. Si on est malade, on est coupé des autres.
Ou
ça peut être des angoisses de mort aussi, par exemple. De mort ou de catastrophe. Si la personne ne fait pas son rituel, il peut arriver une catastrophe qui peut aller jusqu'à la mort et donc la séparer des autres.
Oui.
Voilà, donc pour ce qui est en lien avec les phobies.
D'accord.
On verra, il y a différents types de TOC, il y en a qui ne sont pas liés vraiment aux phobies.
D'accord. Alors, donc, il s'agit de... Ça peut être gênant,
invalidant
même.
Oui. Et finalement, la frontière entre un toc et ce qui serait des habitudes ou des rituels personnels...
Ça se situe où?
Ça se situe en termes et d'intensité et de temps. C'est-à-dire d'intensité parce que c'est beaucoup plus fort et que la personne ne peut pas y échapper. Et en termes de temps, parce que ça prend du temps, alors que quelqu'un qui a une petite manie, ben, ça lui prend deux minutes et puis c'est réglé.
Oui, d'accord. D'accord, bon. Alors, c'est là où se situe la frontière. Ça, donc finalement, ça vient, quand c'est intense, ça empiète sur la vie courante.
Oui.
Et ça empêche la personne de...
D'aller à ses occupations normales.
Ce qu'elle a à faire, quoi, oui.
Voilà. Parce qu'elle a l'obligation, en quelque sorte,
oui.
Même si elle voudrait y échapper, elle a l'obligation de satisfaire à cette obsession. Hein, puisqu'on est dans un trouble obsessionnel et donc la personne ne peut pas faire autrement que des...
Par exemple, se laver les mains, c'est un trouble obsessionnel.
Oui, c'est une obsession, oui.
Il faut qu'elle se... Oui.
Elle est obligée
de
se laver les mains. Et donc ça, la personne ne peut pas y échapper. Elle n'a pas le choix.
Elle n'a pas le choix, oui. Ah. C'est vraiment un conditionnement. Une fatalité, presque.
Alors, une fatalité, non, parce que ça se soigne.
Oui, d'accord. Mais un conditionnement.
Mais un conditionnement, une maladie, un trouble. Hein. C'est un trouble. Voilà, pour d'autres, ça pourrait être des troubles alimentaires, par exemple. Une personne qui a un trouble alimentaire, ben, de la même façon, elle le subit. Et elle n'arrive pas à en sortir.
Par exemple, la boulimie ou l'anorexie, ça peut être un TOC ?
Ah non, c'est pas un TOC, hein, c'est un autre trouble.
Oui.
Voilà, mais c'est juste pour dire que y a des troubles comme ça que la personne subit et ne peut pas y échapper.
Oui, d'accord. Alors, on distingue quand même des TOC des obsessions, par exemple. Parce que vous dites que ça peut être obsessionnel, mais il y a des fois des obsessions qui ne sont pas des TOC.
Oui, alors même si c'est un trouble obsessionnel, le TOC se distingue de l'obsession parce qu'il mène à une action.
Le TOC mène à une action.
Qui peut être une action pensée.
Ouais.
On verra comme compter.
Ah oui.
C'est faire quelque chose, mais en pensée. Ou une action agit comme se laver les mains dans l'exemple d'avant. Alors que l'obsession, elle s'arrête au niveau de la pensée. Mais c'est-à-dire que l'obsession, en gros, ça va être une idée fixe.
Oui.
Le TOC, il vient rajouter... pour lutter contre l'idée fixe, une action qui peut être une action pensée ou une action agie.
Hein. C'est pour sortir de l'obsession, non ?
Alors,
ça pourrait
surtout
une tentative.
Pour sortir surtout de l'angoisse, et du mal-être.
Hein.
Donc c'est vraiment pour éviter de ressentir un mal-être et de l'angoisse.
Mmh. Alors, vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples vous avez parlé d'avoir tendance à se laver les mains très souvent, par exemple.
Voilà, hein. Est-ce que ça peut être
un test.
Oui, on peut se poser ce genre de questions. Est-ce que on a souvent tendance à se laver les mains? Alors, souvent, très souvent, on va dire.
Oui, parce qu'on peut, ça peut être par souci d'hygiène, mais il y a aussi, où est la limite, la frontière?
Quand ça devient excessif, ce moment-là, on peut se poser la question. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps à vérifier les choses? Que la porte est bien fermée, le fer à repasser est bien débranché, avant d'envoyer un courrier, est-ce qu'on le relit une dizaine de fois ou est-ce qu'on passe toute une journée avant de pouvoir l'envoyer, par exemple. Est-ce que il y a des pensées gênantes dont la personne n'arrive pas à se débarrasser? Donc, toutes les pensées qui viennent. Alors, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des pensées gênantes à la messe.
Ah oui.
Ça, qui vont se mettre à penser à n'importe quoi d'autre et elles n'arrivent pas à s'en débarrasser et elles s'en veulent parce qu'elles ne devraient pas penser à ça à ce moment-là.
Voilà. Donc, elles s'occupent culpabilise en plus.
Voilà, et plus, alors dans les tocs, il y a toujours une culpabilité, justement parce que la personne subit quelque chose qu'elle ne voudrait pas.
Ah oui, d'accord, oui.
Est-ce qu'il y a du mal à finir une tâche? Voilà, ce qui rejoint un peu les côtés perfectionnistes, à vouloir toujours...
Ah oui. D'accord. Faire mieux, enfin... Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin important d'ordre? Est-ce qu'on dit voilà, que la personne est maniaque? Alors, maniaque dans le sens commun du terme et pas dans le sens psychologique. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que là, c'est une personne qui a un besoin très important d'ordre?
Par exemple, mettre une chose là et pas... Enfin, absolument,
voilà.
Quoi.
Voilà, absolument. Oui. Que tous les objets soient bien à leur place et pas...
C'est presque un rituel de cet ordre.
Voilà, et ça devient obsessionnel, et si quelqu'un déplace un objet, ça ne va pas.
Hein. Voilà. Alors, ça veut dire, est-ce que ça veut dire alors, que si on répond à ce questionnaire, et qu'on
alors,
se
quand
dit,
on a un peu, non, quand on sait un peu, ça ne veut pas dire qu'on a des tocs. Si c'est beaucoup,
oui.
Ou si la personne cumule, là, il faut se poser la question des tocs.
Voilà. Eh bien, on va y revenir dans quelques instants, hein, et nos auditeurs aussi voilà, vont nous rejoindre, hein, si vous pensez avoir des tocs.
Ou des choses qui vous obsèdent, ou des habitudes qui vous obsèdent et que vous ne pouvez pas faire autrement.
Alors. Donc 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Comment gérer les tocs? C'est le thème ce soir avec Pascal Parinet. On écoute tout de suite Christelle Adams, Le plus beau voyage.
Radio Notre-Dame.
Au peuple de la terre, je parle sans patch, je suis un émissaire, je ne compterai sans âge, l'univers est éternel.
Yeah.
et celui que je fais vers toi, vers toi.
Voilà, c'était Christelle Adams, le plus beau des voyages, c'est celui que je fais vers toi. Est-ce que ça peut être un toc?
Si c'est non,
obsessionnel, non.
Non, enfin, non, par contre, parfois, l'amour peut devenir obsessionnel.
Sans être un toc.
Sans que ça soit un toc, mais de mener, dans certains cas, à des choses un peu délirantes, du harcèlement de l'autre, enfin, ça arrive. Mais c'est pas un toc. C'est plutôt que ça devient obsessionnel.
Oui, oui. Ouais. C'est d'ordre passionnel.
Alors, passionnel et...
obsessionnel.
Et obsessionnel, plus fort que la personne, enfin...
Ah oui, ça la elle ne peut pas faire autrement, ouais, quelque part. Ouais. C'est plus fort qu'elle, elle est poussée, ouais, mais ce n'est pas un toc.
Mais c'est pas un toc. On verra le
la différence
quand on regardera
avec une...
qu'est-ce que c'est que les tocs.
Mm-hmm.
Les personnes comprendront bien à ce moment-là la différence.
Alors, donc, là, nous évoquions... Alors, qu'est-ce qu'un toc? On va le redéfinir, parce que c'est un trouble obsessionnel compulsif.
Oui.
Mais encore, on peut peut-être voir chaque terme.
Oui, bah d'abord trouble, parce qu'il présente un aspect pathologique et que la personne en souffre. Et donc, elle peut ressentir de l'angoisse, de la culpabilité, en tout cas, un mal-être psychologique. Alors, donc trouble obsessionnel, parce que c'est en lien avec des obsessions, c'est-à-dire des pensées, des images, des scénarios qui reviennent fréquemment et dont la personne ne les reconnaît pas comme une pensée volontaire. C'est-à-dire, c'est pas comme si, je pense à mes vacances parce que je dois les organiser
oui,
tous les jours.
Là, c'est volontaire.
Là, c'est soit une pensée, soit un scénario, soit une image qui revient, mais d'une façon complètement involontaire pour la personne, et qui, la plupart du temps, elle ne souhaite pas avoir. On pourrait dire presque tout le temps, elle ne souhaite pas avoir. Et donc, qu'elle subit, et avec laquelle elle est en désaccord, même... On pourrait dire, même si la personne est consciente que ça vient d'elle, c'est-à-dire elle sait bien que cette pensée, elle vient d'elle, parce qu'il y a des fois où la personne croit que ça ne vient pas d'elle, que c'est, que c'est une voix, que c'est... pour d'autres, ça va être quelque chose de spirituel, par exemple. Mais que ça viendra pas d'eux, ça leur paraîtra extérieur.
D'accord. Tandis que là, la personne.
En général, dans le TOC, la personne est.
Elle sait que ça,
elle sait que ça vient d'elle. Voilà, mais tout en se disant, ça vient de moi, mais c'est pas quelque chose que je pense volontairement et c'est pas quelque chose que je veux penser.
Je subis quoi.
Voilà, je subis. Hein.
Alors.
Et compulsif.
Compulsif, oui.
Parce que la personne se sent obligée de poser des actions, donc soit mentales, soit physiques, ou encore de suivre un rituel pour échapper à ses pensées et à l'angoisse qu'elle génère. Donc, le côté compulsif. Donc, il y a obsessionnel parce qu'il y a des pensées qui reviennent d'une façon répétitive. Et puis, compulsif parce que ça oblige la personne à poser des actes qui peuvent être des pensées. Hein. On verra tout à l'heure, on en sautera, mais par exemple de compter ou de réciter une certaine prière dans sa tête. Ou alors... des actes agis comme de se laver les mains, de faire un pas en arrière ou trois pas en arrière ou de sauter sur place. Enfin, ça peut être tout un tas d'actes comme ça agis.
Mais des agis subis, elle ne peut pas faire autrement, c'est ça?
Alors, elle ne peut pas faire autrement et c'est la seule chose qui l'apaise.
Ah oui, c'est... Oui.
À peu près, on pourrait dire, à peu près. Parce que finalement, ça se répète et ça apaise instantanément. Mais comme ce sont des pensées obsessionnelles, ça revient et du coup, ça apaise pas dans la durée, en quelque sorte. Ça résout pas le problème. Ça soulage dans l'instant présent, mais ça revient un peu plus tard.
Alors, donc, on a défini un peu ces trois termes. Donc, vous parliez de se laver les mains, ranger les objets, toujours...
Voilà, ranger, alors ranger ou plier les objets d'une certaine façon et qu'il n'y ait pas un faux pli, que toutes les couleurs soient bien assorties dans l'armoire, et puis une autre couleur à un autre endroit, et que ça, les couleurs ne se mélangent pas dans les piles. Enfin, ça
oui, c'est ça, oui.
Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça.
Alors, maintenant, c'est une... Vous avez défini, mais est-ce qu'il y a une autre définition, des définitions plus...
Alors, plus précises,
précise, oui.
Voilà, il y a celle du DSM qui est...
DSM, c'est-à-dire diagnostic...
Statistique manuelle, c'est ce qu'utilisent les psychiatres pour faire le diagnostic et déterminer la nature des troubles. Et donc, qui dit à peu près ça, donc il y a une exigence, soit d'obsession, soit de compulsion. Alors, pour les obsessions, ça va être des pensées, des impulsions ou des représentations récurrentes et persistantes, et qui, à un certain moment, sont ressenties comme intrusives ou inappropriées, et qui entraîne une anxiété et une détresse importante. Donc ces pensées, impulsions ou représentations ne sont pas simplement des préoccupations excessives concernant les problèmes de la vie réelle. Voilà, c'est pas des soucis qu'on pourrait avoir dans sa vie, mais c'est vraiment en lien avec le trouble. Le sujet fait des efforts pour ignorer ou réprimer ses pensées, impulsions ou représentations, ou pour les neutraliser par d'autres pensées ou actions. Et le sujet reconnaît que les pensées, impulsions ou représentations obsédantes proviennent de sa propre activité mentale. Voilà, ça c'est important. Dans la différenciation avec d'autres troubles psychologiques où la personne ne reconnaîtrait pas que ça vient d'elle, mais penserait que ça vient de quelque chose d'extérieur à elle.
Et elle ne peut pas, parce que c'est automatique, une angoisse, par exemple, la canaliser dans une action constructive, créatrice, est-ce que...
Alors, le TOC, c'est une tentative.
Ah, c'est déjà une tentative.
De canaliser et de lutter contre l'angoisse d'une façon constructive.
Ah oui.
Voilà, si on prend la phobie des microbes, se laver les mains, c'est pas quelque chose...
Il y a une logique.
Il y a une logique.
Oui. Pour répondre à... Oui.
Voilà. Parfois, on verra, il y a des personnes qui font un ou deux pas en arrière pour annuler. Il y a aussi une logique de, finalement, il s'est passé quelque chose, je reviens un peu en arrière, comme ça.
Comme si ça
n'avait pas encore existé.
D'accord.
Et, voilà, donc il peut y avoir des logiques. Pas toujours. Mm-hmm. Ah, parfois, ça peut nous paraître un peu illogique, mm-hmm. mais il y a quand même une certaine logique.
Parce que la personne essaie de résoudre, hein, mm-hmm. mais elle reste enfermée dans sa tentative.
Alors,
il y a un enfermement, là.
Il y a un enfermement, mm-hmm. et elle est complètement prisonnière et de l'obsession et de la tentative de
oui,
résoudre.
Oui. Elle est comme enfermée là-dedans.
Elle est
oui.
complètement enfermée.
Parce que il peut y avoir, je ne sais pas, des troubles comme cela, obsessionnels, compulsifs, donc des TOC. Est-ce que on dit que des artistes aussi peuvent avoir des troubles, mais qu'ils canalisent dans quelque chose de constructif et d'une création. Ils sortent d'eux-mêmes pour en sortir. Est-ce que, enfin, pas forcément, mais est-ce que ça peut être une façon de...
Oui, de résoudre ? Alors après, tout dépend de la gravité du TOC et des obsessions. Donc quand c'est léger, bah, oui, ça en même temps, quand la personne arrive à résoudre ou trouver un autre chemin, il n'y a plus le TOC.
Voilà, c'est ça, elle trouve un chemin de sortie vers une réalisation quelconque, on peut dire.
Voilà, mais si le TOC s'est installé, en général, c'est très difficile pour la personne de trouver d'autres moyens.
Il y a une habitude.
Et là, il y a besoin d'une thérapie. Mmh. Alors, quand c'est un trouble léger, des activités ou des artistiques ou autres peuvent aider. Dans la mesure où elle ne constitue pas elle-même un TOC.
Ah oui, oui, ça peut, bien sûr.
Hein? Parce que, ça peut être, je sais pas, je pense quelqu'un qui se sentirait obligé de chanter ou de faire des vocalises, par exemple. Mmh. On pourrait dire, il a trouvé un chemin les vocalises.
Non, parce qu'elle est la personne est enfermée.
Elle se retrouve, ce qui revient à une autre forme de TOC.
Oui.
Voilà, mais si ça prend la forme d'une activité normale, à ce moment-là, oui.
Oui.
Mais dans ce cas-là, ça veut dire que il y avait. Alors, le TOC, il peut varier aussi en fonction des circonstances de vie, du stress. Quand il y a des problèmes dans la famille ou au travail, les TOC vont être encore plus intenses.
Oui.
Donc ça peut fonctionner pour des personnes un peu à la frontière, c'est-à-dire qui auraient pas vraiment des TOC et que des circonstances spécifiques, soit de travail, soit de famille, font apparaître des TOC. Là, c'est plus facile de trouver d'autres solutions.
Mmh.
Quand c'est vraiment installé dans une problématique de TOC, c'est plus compliqué.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, on va poursuivre dans quelques instants. Bien sûr, nos auditeurs nous rejoignent au 01 56 56 44 00. Comment gérer les TOC ? C'est le thème ce soir avec Pascal Parinet. On écoute France Gall, évidemment.
Radio Notre-Dame.
Évidemment, pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. La boussure debout qui ne change rien, qui change tout, évidemment.
Voilà, c'était France Gall, évidemment. Donc, c'est pas évident. Nous, on parle des TOC. C'est pas évident. Il faut bien définir ce que c'est. Donc, trouble, on l'a dit, trouble obsessionnel compulsif.
Voilà.
Mais, si, voilà, différent des obsessions. Des obsessions qui sont pas des TOC, oui.
Voilà, on a parlé là de toutes les obsessions. Et après, il y a l'aspect compulsion. Donc, qui constituent des comportements répétitifs ou des actes mentaux que la personne se sent poussée à accomplir en réponse à une obsession, selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible. C'est-à-dire que l'action, ça peut pas être n'importe quoi, ça doit être fait d'une façon inflexible.
D'accord, oui. Ça, c'est pour les compulsions.
Voilà. Mais qu'on retrouve dans les TOC, il y a tout l'aspect obsession et derrière tout l'aspect compulsion.
Compulsion, d'accord.
Et donc, ces comportements ou actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher un événement ou une situation redoutée. Cependant, ils sont soit sans relation réaliste avec ce qu'ils proposent de neutraliser ou de prévenir, soit excessifs. Voilà, quand on parle de se laver les mains, on peut faire un lien réaliste, mais par contre, ça devient excessif. Voilà, la personne a reconnu que ses obsessions étaient excessives et irraisonnées. Ses obsessions et compulsions sont à l'origine de sentiments marqués de détresse, d'une perte de temps considérable, et en moyenne plus d'une heure par jour, et ils interfèrent de façon significative avec les activités habituelles de l'individu.
Alors, on va écouter tout de suite Daniel qui est en ligne. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir, Chantal, et bonsoir, Pascal Pariné.
Oui.
Bonsoir.
Voilà, moi, j'ai appelé là, au sujet de la fille d'une de mes amies qui garde des cartons, des valises, des publicités. Voilà, faut surtout pas y toucher. Dans l'appartement, elle vit avec sa maman. Elle a 38 ans et sa maman 71. Je ne sais pas si ça fait partie des TOC. Bon, si on peut faire quelque chose.
Alors, là, comme ça, a priori, hein, faudrait en parler un peu plus avec la personne, mais ça semble plus être une problématique obsessionnelle qu'un TOC à proprement parler. Voyez, dans le TOC, y a l'aspect, on verra, soit d'annulation, soit d'évitement, soit de réparation. Et là, c'est plus, elle veut garder les choses. Alors, certaines choses qui sont peut-être pas forcément appropriées.
Mais, oui, c'est sûr.
Voilà, mais c'est plus quelque chose qui est de l'ordre d'une rétention obsessionnelle. Voilà, il y a des personnes qui ont leur appartement encombré de plein de choses, de revues, de cartons, d'objets, enfin de. Et là.
Mais bon, c'est pas forcément des TOC.
Alors.
Si.
Ce sont pas des TOC, mais c'est.
Rétention obsessionnelle.
Voilà, on est dans une problématique obsessionnelle. Hein.
Mais voilà. Pas forcément TOC.
Mais c'est pas un TOC tel qu'on définit le TOC.
Donc il y a des problématiques obsessionnelles très différentes.
Oui, on verra. La particularité du TOC, c'est qu'il y a une pensée ou une action qui vient en réaction ou en complément à une obsession. Hein. Mmh. Alors que là, la personne, elle est juste dans l'obsession. Mmh. S'il fallait qu'elle range ses cartons d'une certaine façon et qu'ils soient bien en ordre, bien immobiles...
Là, ça serait un TOC.
Là, ça deviendrait un TOC.
Mmh. Mais là... Excusez-moi de vous couper, mais effectivement, les valises sont
rangées.
Là, les valises dans l'appartement, là, dans le séjour, sur la table de la cuisine, voilà, il y a tout un... il ne faut pas y toucher, et voilà, par malheur, on a le droit... Si on touche à une petite feuille, elle le voit. Voilà, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas toucher à quoi que ce soit.
Oui, mais elle ne s'adonne pas à un rituel, voyez.
Elle se sécurise, non, là, plutôt.
Voilà, oui, sa maman m'a dit que c'était... on lui a dit que c'était une... Voilà, comme ça, elle est sécurisée avec tout ça autour.
Voilà, il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect de garder les choses et donc de pas être dépossédé ou de pas manquer. Enfin, il y a différents aspects. Mais, vous voyez, aller dans quelque chose d'obsessionnel pour se sécuriser, dans le TOC, il y a un rituel. Et là, ça ne donne pas spécialement un rituel. Mmh. Sauf si quelqu'un vient déranger la façon dont elle a ordonné, elle vient remettre en place.
Ah, mais oui, ça le fait. Oui.
C'est un rituel, ça, alors. Ça.
Non, ça, c'est pas un rituel. Quelqu'un vient déranger.
Elle le remet comme c'était.
Elle le remet comme c'était. Mais elle n'a pas besoin, elle. Mmh. Pour alléger son angoisse ou son mal-être, de faire un certain rituel de façon répétitive.
Oui, c'est plutôt pour se sécuriser.
Là, on est dans un trouble obsessionnel, mais pas un TOC. Mm-hmm.
Ah. D'accord. Bon.
Voilà. Après, c'est des petites nuances, hein, mais... Mm.
Je peux vous poser une autre question. Quelqu'un qui va toujours voir si la porte est fermée, mais quand la personne passe.
Voilà, là, on est plus dans l'ordre du TOC.
Bon, alors ça me concerne. Voilà. J'y ai pensé après.
Mais après, si c'est une fois...
À l'occasion, mais c'est de revenir plusieurs fois, là, non?
Pas plusieurs fois, mais au moins une fois. Enfin, pas tout le temps, mais des fois, quoi. Ou j'oublie, voilà, c'est ça. Vu mon âge, des fois, j'oublie et je me demande si...
Mais c'est pas forcément... Il y a des degrés, il y a des petites choses qui sont pas forcément...
Voilà, mais ça, il y a...
Entre une prudence...
Disons, tant que ça vous gêne pas dans votre vie...
Ça vous gêne pas.
Il m'est arrivé d'oublier. Alors, des fois, j'y vais, mais c'est déjà fermé. Et puis, voilà. voilà, pour vérifier si j'ai fermé.
Oui, bon. Et vous verrez, on parlera de la notion du doute dans le talk.
Ah, d'accord. Voilà. Bon.
On va continuer comme ça.
Je vous remercie. D'accord.
Merci.
La parole à d'autres.
Voilà,
merci
mais
beaucoup.
Si vous retournez une fois vérifier, c'est pas un toc.
D'accord.
Si vous y retournez plusieurs fois, c'est un toc.
D'accord. Merci, Pascal.
Merci, Daniel.
Oui,
bonsoir.
Merci.
Bonsoir.
Alors, on va poursuivre un peu, hein, pour bien comprendre. Le TOC, c'est un symptôme.
Oui, c'est le symptôme d'une problématique qui est inconsciente et surtout qui est anxiogène.
Oui.
Et donc, ce symptôme, il a pour fonction de lutter contre la détresse occasionnée par l'obsession. Et donc, c'est un mécanisme de défense.
C'est un mécanisme de défense, le TOC.
C'est un mécanisme de défense contre l'angoisse ou parfois contre la dépression. Voilà. Mais on est dans la défense contre l'angoisse et l'anxiété.
Mmh. Alors, peut-être quelques chiffres concernant les personnes qui sont susceptibles d'être concernées.
Oui, alors d'abord, c'est autant les hommes que les femmes, hein, 50-50. C'est à peu près 2 à 3% de la population. Alors, en même temps, il y a différents niveaux de sévérité dans les TOC, hein, et ça, c'est important de le dire et d'en prendre conscience. L'apparition, c'est entre 20 ans et 35 ans, à peu près.
D'accord.
Chez l'adulte.
Oui.
Et vers 10 ans chez l'enfant.
Parce que, avant, par exemple, chez l'enfant, ça ne se. C'est pas susceptible de se mettre en place.
C'est beaucoup plus rare.
Et pourquoi vers 10 ans? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, 10 ans, c'est la prépuberté.
Oui.
Donc, c'est la préparation à une autre période de vie.
Donc, une angoisse, là, qui peut se...
Et donc, une angoisse qui est sous-jacente.
Angoisse de grandir, angoisse de changer. Oui.
Et qu'on retrouve aussi après 20 ans, c'est tout le passage dans la vie adulte. Là, il y a le passage à l'adolescence et le passage dans la vie adulte.
Oui. Donc, il peut y avoir des peurs, des angoisses
sous-jacentes. Oui.
Et alors, donc, des TOC peuvent se mettre en place pour pallier à ces angoisses.
Alors, le TOC, il pallie, l'angoisse crée une obsession et le TOC pallie à l'obsession.
L'angoisse crée une obsession.
Une pensée obsessionnelle. Mm-hmm. Et le TOC vient lutter contre la pensée obsessionnelle et en même temps, par ricochet, contre l'angoisse.
D'accord.
Voilà. Alors, les obsessions, elles concernent... Alors, entre 1 et 2 tiers qui présentent un épisode dépressif après l'apparition des TOC. Hein. Oui. Quand on disait le TOC qui sert à protéger de l'angoisse et souvent de la dépression.
Toujours, parce qu'il peut y avoir un épisode dépressif après.
Ça ne marche pas toujours.
Ah oui.
Hein. Donc pour un tiers ou deux tiers des personnes, on voit quand même des épisodes dépressifs derrière. Et puis, tous les stress importants vont aggraver le phénomène de TOC parce qu'ils vont déclencher des pensées obsessionnelles. Quand on est stressé, quand on a des soucis, on pense qu'à ça. Et donc, ça va rentrer ou aggraver les mécanismes obsessionnels et du coup, aggraver les TOC.
Est-ce qu'il y a des thèmes obsessionnels plus particuliers?
Oui, alors les plus fréquents, c'est la peur de la contamination.
Donc se laver les mains, par exemple.
Voilà, se laver les mains ou d'attraper des microbes, des maladies. Les pensées agressives. Les besoins de symétrie et d'exactitude dans le rangement des objets ou des vêtements. Les peurs somatiques. Donc là, ça va être la peur d'avoir
quelque
chose, une maladie, une blessure. les représentations sexuelles, voilà, qu'on retrouve aussi fréquemment. Et puis au niveau des compulsions les plus fréquentes, oui. Ça va être la vérification.
Oui.
C'est pratiquement la plus grande proportion de TOC. Tous les rituels de lavage.
Pas seulement les mains, tout.
Voilà, oui. Ça peut être les mains, ça peut être des douches aussi.
Ah,
oui. J'ai repensé... à comment une personne, à une association qui accueille des personnes en Inde avec qui on collabore, qui nous parlait d'une jeune fille qui avait été violée et qui prenait des douches sans arrêt toute la journée,
ah, oui.
Mais d'une façon obsessionnelle. Voilà.
Ah, oui.
Alors, c'est post-traumatique.
Oui,
mais c'est devenu un TOC pour la protéger justement du traumatisme.
Mm-hmm.
Donc tous les rituels de lavage, les rituels de comptage aussi.
De comptage, c'est-à-dire voilà, compter
dans
les moutons.
Alors compter les moutons, c'est pas un TOC, sauf si ça devient involontaire et indispensable pour dormir. Ça peut être de compter, de faire des calculs dans sa tête.
Ah, oui.
Ou de compter le nombre de pas qu'on fait, par exemple.
Ah, oui.
Ou de compter, je sais pas, si c'est un carrelage, le nombre de carreaux qu'il y a pour aller à tel endroit. Donc, ça peut être de compter n'importe quoi.
Compter, c'est
voilà, et pourquoi pas les moutons. Et puis après, il y a d'autres aspects associés au TOC. Donc, tout ce qui est détresse émotionnelle, comme l'anxiété, la culpabilité, le sentiment de honte et d'anormalité. Les évitements, les pertes de temps, un aspect d'handicap social dans le sens où ça peut empêcher la personne d'avoir des activités normales.
Oui, oui, hein. Oui.
La souffrance des proches qui est quand même souvent fréquente parce que
ils
se sentent impuissants. La fatigue et l'épuisement. Et puis le fait d'essayer de dissimuler son TOC. Ce qui crée encore plus de complications finalement parce que la personne
On voit que ça rend, c'est handicapant, hein, c'est
oui.
Invalidant enfin, tout cela. Merci Pascal Parinet, 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Comment gérer les TOC, on se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame Ecclésia Magazine, Élodie d'Andrécourt.
La résurrection du Christ n'est pas un fait relevant du passé, elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Le pape François n'a eu de cesse de le répéter dans la joie de l'évangile. Cette vitalité chrétienne visible dans le monde, les paroisses, mouvements et diocèses, je vous invite à la découvrir au quotidien dans Ecclésia Magazine, du lundi au vendredi à 9h30.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Prière, veillée d'adoration, marche, conférence, concert. Pour faire connaître les initiatives de votre diocèse et de votre paroisse, rien de plus facile. Rendez-vous sur la page agenda de notre site internet radionotredame.com. Remplissez le formulaire en bas de page. Votre annonce sera relue et validée par notre service web. Pour faire connaître la vie de vos diocèses, l'agenda de Radio Notre-Dame, c'est sur radionotredame.com.
écoute dans la nuit, et 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir avec Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Nous parlons des TOC. Comment gérer les TOC? Voilà, c'est le thème. Alors, peut-être, Pascal Parinet, on peut voir ce que vous proposez, dans le pour faire face, gérer les TOC, quelque chose dans
alors,
vos
directement
stages,
sur les TOC.
Oui.
Non, mais de toute façon, dans nos stages, on travaille à partir de ce que les personnes apportent. Donc, même si on a un thème un peu fédérateur, chacun reste libre de travailler ce qu'il a envie. Voilà.
Voilà. Donc, on peut travailler ça
éventuellement. Allez, voilà. Donc, il y a un stage sur l'image de soi et le regard des autres, le 22 et 23 juin, donc bientôt. Après, il y a un stage sur gérer son rapport à l'argent et à la vie.
C'est au début juillet, ça?
Voilà, le 6 et 7 juillet. Et un stage de confiance en soi, les 20 et 21 juillet.
Voilà.
Voilà, et pour avoir des renseignements, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60, 06 75 79 60, ou sinon sur ifpsy.com.
Voilà, donc pour tout renseignement, les renseignements sont au standard si vous n'avez pas noté. Il y a. Alors, qu'est-ce que j'avais sous les... J'ai perdu les fiches. Voilà, elles sont là. Il y a deux... Enfin, c'est à peu près le même... Non, c'était pas celle-ci.
Il y avait une personne...
Ah oui, voilà, c'est ça. Les... Alors, il s'agit... Alors, Michel nous dit, est-ce que les tics sont près des tocs obsessionnels compulsifs?
Non, alors les tics sont différents des tocs. Alors d'abord, les tics sont très souvent plutôt au début de l'adolescence, voilà, vers à peu près au même âge d'ailleurs, vers une dizaine d'années, mais sont plutôt liés au contrôle de tous ces mouvements internes qui se passent avec l'apparition de la puberté finalement. C'est la personne qui essaye de contrôler tous les mouvements affectifs qu'elle vit en elle au début de la puberté et qu'elle n'arrive pas à contrôler complètement parce que la vie est quand même plus forte que le contrôle et ça arrive à passer quand même sous forme de tic.
D'accord.
Voilà, c'est une défaillance du contrôle, en quelque sorte.
La
personne voudrait contrôler absolument, et voilà, y a un tic qui montre qu'elle n'y arrive pas. Ça, c'est le premier aspect.
Contrôle de ses émotions, par exemple?
Oui, des émotions, de tous les mouvements affectifs, des pulsions aussi, qu'il peut y avoir au moment de la puberté. Voilà, et que ce qui rejoint d'ailleurs la pudeur du jeune enfant, hein, les tics apparaissent à peu près en même temps que la pudeur d'ailleurs, voilà, où l'enfant essaye de contrôler, devient pudique,
oui.
Et en même temps il essaye de contrôler tout ce qui se passe en lui. Quand ça fonctionne mal, ça peut se manifester sous forme de tic.
Alors, voilà, donc c'était Michel qui posait cette question, mais Jeanne pose une autre question. Enfin, elle nous dit que sa fille a souffert de la maladie Gilles de Tourette, entre parenthèses, tic et toc.
Oui.
Et elle s'est soignée par la sophrologie.
Voilà, alors ben, la maladie Gilles de Tourette, c'est quelque chose de différent. D'abord, c'est une maladie neurologique, ce qui n'est pas le cas des tics et
des tocs.
Des tics et non plus des tocs.
Oui.
Et du coup, alors après la sophrologie, on pourrait dire tout ce qui est relaxation. Alors, ça peut être la sophrologie, ça peut être la méditation, ça peut être une prière contemplative qui rejoint la méditation. Voilà, tout ce qui permet en quelque sorte une détente du corps va favoriser un mieux-être. Ce qui est vrai aussi, d'ailleurs, pour les tics et les tocs. Hein, tout ce qui est de l'ordre de la relaxation corporelle va favoriser. Pour les tocs, ça peut aider, hein, puisque là, ça va baisser le niveau de stress de la personne. Mais dans beaucoup de cas, on pourrait dire dans la majorité des cas, c'est insuffisant, ça doit être complété ou accompagné plutôt une thérapie. Hein. C'est-à-dire, on va donner ça, proposer aux gens plutôt en complément de la thérapie de faire de la relaxation ou de la méditation.
Donc, on verra ça tout à l'heure aussi, on complétera. On va poursuivre peut-être avec les différents types de types de TOC.
Voilà, alors le premier...
Vous parliez de vérification, est-ce que c'est un type particulier?
Oui, c'est un premier type qui concerne l'action de vérifier pour éviter le sentiment d'angoisse. Voilà. L'auditrice d'avant nous parlait de vérifier si la porte était bien fermée.
Oui. Mais c'est pas dans son cas, c'est pas forcément
quand on y retourne une fois,
Mais si après être retourné une fois, on y retourne une deuxième fois, peut-être une troisième, là,
voilà.
On peut se poser la question.
Et qu'en chemin, on oublie.
Ah oui.
Si la porte.
Ah
après,
oui.
Et voilà, normalement, on peut vérifier une fois qu'on a vérifié, que c'est fermé.
Oui. Mais après, si on oublie
en chemin que. Oui. Malgré qu'on ait vérifié que la porte était bien fermée et qu'on est obligé d'y retourner, là, on rentre dans un processus de TOC.
Ou d'amnésie.
Bon. Alors, dans ce type de TOC, le doute, dans tous les TOC de vérification, finalement, le doute a une place importante. Alors, comme symptôme d'un conflit interne, qui génère et l'angoisse et l'obsession. Et on pourrait presque parler dans certains cas d'une névrose du doute. C'est-à-dire que la personne est prise par des doutes, elle doute d'elle-même, elle doute de ce qu'elle a fait, ou de ce qu'elle a dit, ou de la porte qui est bien fermée malgré vérification.
Mais ça peut être un manque de confiance en soi, non ?
Alors
c'est
plus, on est au-delà de la question de la confiance en soi. On est vraiment dans le doute. Voilà, par exemple, si c'est vérifié que la porte est bien fermée, on vérifie une fois et on doute plus.
Oui.
Alors que s'il y a besoin de revenir, ça veut dire que là, en sous-jacent, il y a un doute.
Un doute plus profond.
Plus profond.
Oui, il faut voir plus loin, qui est ancré plus.
Qui est beaucoup plus ancré dans la psychologie de la personne, qui fait que, même en vérifiant, elle continue à douter d'elle-même et de ses actions. Voilà, on pourrait reprendre aussi, mais la vérification que la cuisinière ou le four est bien éteint, ou la cafetière, ou le fer à repasser.
Alors une fois, d'accord, mais pas en y revenant plusieurs fois.
Voilà.
D'accord.
Ça peut aussi concerner des aspects physiques, par exemple un petit bouton, ou de l'acné, ou des choses comme ça, ou... ou un défaut physique réel, hein, parce que comme on n'est pas parfait, on a tous des petits défauts dans
Peut prendre des proportions, c'est ça.
Voilà, et qui obligera la personne à passer beaucoup de temps devant son miroir de façon à s'assurer qu'il n'est pas visible. Voilà, si on a un petit bouton, c'est pas grave. Si on passe une heure devant son miroir à essayer de le cacher, on est dans le toc.
Dans le toc.
D'autres fois, ça va concerner le rangement, la façon dont les vêtements sont pliés, dont les couleurs sont agencées, l'alignement des objets, la symétrie des chaises ou des objets sur les étagères. Voilà.
Oui, tout ça. Enfin, vraiment une sorte de... c'est quelque chose de maniaque, enfin.
Oui, on est dans l'obsession. On est dans l'obsession, mais avec la nécessité de vérifier que tout est bien en place.
C'est la vérification.
Oui.
Hein.
Dans d'autres cas, ça va concerner des aspects professionnels comme l'envoi d'un mail, par exemple, ou d'un rapport.
Donc on doit vérifier encore.
Voilà, que la personne va relire de nombreuses fois avant de l'envoyer.
Tout ce qui est vérification, voilà, ça peut... un tas de choses, quoi.
Voilà, et dans d'autres cas, la vérification, ça va même concerner l'image de soi, comment on est perçu, et il y a des personnes qui vont poser des questions aux autres sur comment ils ont... Alors, pas directement, ils vont pas demander comment tu m'as trouvé ou comment tu m'as perçu, mais ils vont en quelque sorte essayer d'enquêter pour voir si les autres ont perçu comment ils étaient et surtout s'ils sont arrivés à percevoir leur angoisse et leur obsession. Et donc le TOC va être de vérifier auprès des autres s'ils perçoivent l'angoisse.
Si leur angoisse est visible.
Et si l'autre s'est rendu compte de rien, à ce moment-là, ils sont rassurés et ça apaise.
Donc tout ça, c'est lors de la vérification. Tout ça, c'est vérifier que...
Bon. Voilà, et ça peut concerner comme ça beaucoup d'aspects de la vie courante. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de TOC à part la vérification?
Il y a les TOC d'annulation.
Est-ce que c'est quoi un TOC d'annulation?
Là, il s'agit d'annuler une pensée... soit par une action mentale, on disait tout à l'heure de compter, par exemple, soit en récitant un mot, une phrase, pour les croyants, ça peut être une prière, ou encore par une action physique, comme de faire un pas en arrière, de faire un geste, ça peut être n'importe quel geste, d'ailleurs.
Qui pour annuler
une pensée obsessionnelle.
D'accord.
Alors, les TOC d'annulation concernent des pensées, mais aussi des désirs ou des actes vécus comme coupables. Par exemple, le fait d'avoir une pensée agressive envers quelqu'un peut déclencher un TOC. Le fait de croiser quelqu'un dans la rue et de le regarder, de croiser le regard de quelqu'un dans la rue peut déclencher un TOC. Ou d'avoir un regard un peu porté sur quelqu'un de l'autre sexe peut déclencher un TOC. Voilà, ce qui fait que beaucoup de TOC d'annulation vont être en lien avec les pulsions humaines.
Mais alors, par exemple, croiser un regard, voilà, ça déclenche un TOC. On parle de TOC d'annulation.
Oui.
Alors, qu'est-ce que, par rapport à cette situation, disons entre guillemets, l'annulation, qu'est-ce que ça va être?
Alors, ça peut être de compter dans sa tête, ou de compter le nombre de voitures qui passent, ou de faire...
Ça n'a rien à voir, enfin...
Non,
oui.
De faire un pas en arrière.
Ah oui, quelque chose.
Ou de sauter, de faire un pas en sautant,
ah, oui.
en fait, ça va être un geste qui, dans l'esprit, un geste ou une action mentale, qui, dans l'esprit de la personne, va venir annuler...
Ah oui, dans son esprit, oui. C'est pour elle, ça...
Voilà. Il n'y a que la personne qui fait le toc...
Qui
parfois est consciente qu'elle fait ça pour annuler la pensée qu'elle a eue avant.
Parfois, c'est automatique.
Parfois, c'est automatique et c'est au fur et à mesure de l'analyse qu'elle va réaliser que si elle fait ce geste-là quand elle croise quelqu'un, c'est parce qu'elle a tel type de pensée ou tel type de désir et que du coup, le geste vient annuler la pensée ou le désir.
D'accord.
Voilà, parce que au fond, il y a une culpabilité. La personne se sent coupable de, soit de regarder quelqu'un dans les yeux, soit d'avoir une pensée agressive, soit d'avoir une pensée sexuelle, soit. Voilà.
Alors, ça répond peut-être à Marie-Christine qui dit : les tocs sont-ils en lien avec un sentiment de culpabilité ?
Oui, toujours.
Toujours.
Il y a toujours. Soit à la base un sentiment de culpabilité et aussi de toute façon une culpabilité à avoir des tocs.
Ah voilà. Oui, le fait d'avoir des tocs, ça peut donner une culpabilité.
Alors oui, parfois la culpabilité
est avant
et inconsciente.
Oui.
Où la personne.
Elle réagit comme ça pour pallier.
Elle réagit comme ça. Pour pallier son angoisse et sa culpabilité.
Oui. Et parfois,
Presque tout le temps, la personne se sent coupable d'avoir des tocs ou des pensées obsessionnelles qu'elle n'arrive pas à maîtriser et dont elle ne voudrait pas avoir.
Alors, je poursuis la question de Marie-Christine. Elle dit, pourquoi en parle-t-on de plus en plus? Pourquoi y a-t-il plus de tocs en ce moment?
Alors, on en parle on parle de plus en plus de beaucoup de sujets.
C'est ça dont on n'était pas forcément conscient avant.
Alors, les tocs, ça existait. On ne peut pas dire qu'il y en ait plus aujourd'hui. Alors, revoir les statistiques d'avant, mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup monté. Peut-être que le stress des gens aussi, et les conditions de vie stressantes favorisent
un peu
ces mécanismes-là. Voilà, mais simplement, on en parle plus parce que, comme tous les sujets de psychologie, on en parle de plus en plus.
Hein, quel qu'il soit, oui. Donc là...
Donc c'était les tocs d'annulation.
Les tocs d'annulation. Donc on va là je vois que avant de poursuivre on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Le point de vue de Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, président de Radio Notre-Dame, Monseigneur Michel Aupetit analyse les grands enjeux éthiques de notre temps. Le point de vue de Monseigneur Michel Aupetit, c'est tous les vendredis à 7h03 et 20h55. Sur Radio Notre-Dame.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 11h15 et 17h45 sur Radio Notre-Dame.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Virginie de l'équipe du téléphone du dimanche. Depuis 30 ans, tous les dimanches, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en leur permettant d'écouter les messages que leurs familles et leurs proches transmettent en direct grâce à notre standard. Car quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Votre message est un lien précieux et vital, car en entendant la voix d'un parent, de son ami, de son enfant, les détenus reprennent courage et confiance en l'avenir. Alors vous aussi, soyez fidèles à ce lien unique qui redonne l'espérance. Et retrouvez-nous tous les dimanches de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, eh bien, nous parlons des TOC. Alors, il y a ces jours, voilà, avant de poursuivre, Pascal Parinet, je vous lis ce que Jo nous dit. Il dit « Je doute que le syndrome de vérification soit un TOC. Quand j'ai trop de choses à traiter, je tombe dans la vérification. » Mais je me sens très bien, c'est seulement en période de surcharge intellectuelle.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a des manies qui sont, enfin des manies,
oui,
ou des symptômes comme ça, qui sont les prémices du TOC. C'est-à-dire que une personne qui n'a pas du tout de TOC comme ça, de vérification, besoin de vérifier quand il n'y a pas de stress, ben, elle n'a pas de TOC. Et puis quand il y a un stress important, elle va mettre en place des mécanismes analogues au TOC. Donc de vérification, mais c'est exactement le même mécanisme.
De défense, un mécanisme de défense ?
Tout à fait, oui.
Oui.
De façon à gérer son stress.
Ah oui, c'est pour gérer un stress. Là, donc en surcharge intellectuelle, voilà. Il y a un stress supplémentaire. Pour gérer le stress, elle met en place...
mais comme c'est occasionnel et lié à un facteur identifiable, on n'est pas dans un trouble psychologique. On est dans une adaptation à une situation. Mais on est le processus est le même que le TOC.
C'est ça, mais ça ne va pas jusque. Voilà. C'est pas un trouble psychologique.
Là, on est dans l'adaptation.
Oui.
Et le TOC est plus que de l'adaptation, c'est de la défense.
Ah oui. Ah oui, entre adaptation, s'adapter. On a s'adapter tout le temps à la vie. Bon, c'est une adaptation.
Oui.
Mais la défense,
c'est au-delà
d'adaptation.
C'est au-delà.
Ouais.
C'est exactement le même mécanisme,
mais
qui va beaucoup plus loin.
Pour s'adapter, parce qu'on ne parvient pas à s'adapter, ou c'est pour s'adapter, s'adapter.
C'est pour s'adapter, mais
ça va plus loin que l'adaptation.
Sans y arriver, la personne n'arrive pas à s'adapter. Et du coup, elle va mettre en place un mécanisme d'une façon beaucoup plus rigide, en quelque sorte. Et donc, qui devient défensif. Mais l'adaptation et les mécanismes de défense, c'est exactement la même chose. C'est juste une question
d'intensité
et de rigidité du mécanisme.
Ah oui.
Dans l'adaptation, on est souple.
L'adaptation, c'est un mécanisme ?
Oui, bien sûr.
De défense ?
Oui.
Pour une situation, mais pour s'adapter. On se défend en s'adaptant, oui.
On gère une situation en s'adaptant d'une certaine façon. Alors là, ça peut être de vérifier. Il y en a d'autres qui vont, d'éviter de faire leur boulot parce que leur mécanisme d'adaptation, ça va être l'évitement. Alors, c'est pas...
Ah oui, il y a d'autres... C'est autre chose,
Il y a d'autres mécanismes. Cette personne, quand elle est dans la vérification, elle utilise le même processus que le TOC, simplement dans quelque chose qui est adaptatif parce que les circonstances correspondent.
Oui.
Alors que dans le TOC, ce n'est pas adaptatif parce qu'il n'y a pas de circonstances qui correspondent, mais que c'est un trouble psychologique.
Mmh.
Parce que, justement, c'est un trouble, justement, parce que ça ne correspond pas à, aux circonstances de l'environnement.
Oui, oui, oui. Ce n'est pas les circonstances, mais on, voilà, on met en place. Tandis que là, c'est tout à fait pour s'adapter. Voilà. Quoi.
Mais par contre, quand on est dans des tocs de vérification, on est bien dans un trouble psychologique.
Tandis que là, il peut y avoir la vérification, ce n'est pas forcément un toc. Mais il y a des tocs de vérification. Voilà. Mais là, c'est une vérification, comme pour la porte une fois.
Comme d'aller vérifier une fois si la porte est
fermée. C'est simplement de la prudence ou de la... Donc, c'est pas parce qu'on parle de vérification que c'est automatiquement un toc. Hein. C'est,
non.
Là, c'est une situation d'adaptation pour Jo. Hein.
Oui. Alors, par contre, quand ça devient beaucoup, je parlais d'envoi de mail, par exemple, qu'il faut relire 10 fois, vérifier 10 fois, vérifier si on envoie bien aux bonnes personnes plusieurs fois. Et là, on est dans le TOC. On est déjà dans quelque chose qui a un trouble psychologique. Et on n'est pas seulement dans le stress. Et donc, la frontière, elle est là.
Mais c'est un stress. On n'est pas seulement dans le stress, mais c'est un stress plus fort, enfin. Qui... C'est au-delà, il y a un trouble. Là,
il y a un trouble parce que on peut avoir la pression parce que notre chef est sans arrêt derrière nous, par exemple, est stressé. Et du coup, vérifier ses mails, les relire 2 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas une faute ou je ne sais pas trop quoi.
C'est de la prudence, ça. C'est, c'est pour s'adapter à la situation.
Voilà. Oui. Et puis, il n'y a pas le chef qui est derrière nous.
Mais malgré
tout, il y a l'obligation de relire plusieurs fois son mail.
Et puis, pas l'envoyer tout de suite.
Parce que c'est angoissant même de l'envoyer des fois qu'il y ait une faute qui soit passée au travers. Là, on est dans quelque chose qui est lors du TOC de vérification.
Voilà, donc c'est pas du tout. Alors passons à un autre type de TOC.
Voilà. Alors après, il y a les TOC en lien avec les phobies.
Oui.
Et ça, il y a beaucoup de TOC qui sont comme ça. Alors en général, ça va être tous les TOC de nettoyage. De se laver les mains, de désinfecter soit ses mains, soit les objets autour, qui vont concerner toutes les phobies des microbes. Ça peut être aussi en lien avec certains objets qu'il faudra éviter ou dont les TOC vont déclencher des mécanismes d'annulation, par exemple. Tous les objets un peu pointus que la personne va chercher aura la phobie des objets pointus et que si jamais elle en voit un, elle sera obligée de faire un toc d'annulation. J'ai croisé une fois une personne qui avait des tocs comme ça par rapport au parapluie. Les phobies. Et donc, s'il y avait un parapluie, alors, je ne sais plus, ouvert dans la maison, il fallait qu'elle fasse certains.
Un rituel.
Un rituel,
Parce que ça portait malheur ou un truc comme ça.
Enfin, c'est... Et donc, là, on était dans l'annulation. Mais c'est plus que ça portait malheur. C'était vraiment un problème psychologique. Voilà, et d'autres fois, la phobie, elle peut se porter sur le fait d'oublier, par exemple, une pensée obsédante. Voilà, je pense à quelqu'un comme ça qui avait des obsessions, mais avait la phobie de les oublier.
D'oublier ses obsessions.
Oui. Et dès que...
Elle oubliait l'obsession, dès que l'obsession n'existait plus, n'était plus là.
Dès qu'elle angoissait parce que, justement, elle avait peur de ne pas maîtriser quelque chose qui l'avait obsédée.
Ah oui.
Et du coup, ça a engendré des tocs par derrière, enfin, voilà.
Donc, la pensée obsédante, ça peut être une sécurisation, pour se sécuriser.
Alors, mais c'était, disons que la pensée obsédante était génératrice d'angoisse, mais finalement, c'était encore pire de l'oublier.
Ah oui.
Après coup, parce que ça générait encore plus d'angoisse.
D'accord. Ah. Bon.
Voilà.
Alors.
Il y a l'aspect compulsion dans le TOC.
Parce que les TOC en lien avec la phobie, là, ouais, mais il peut y avoir des phobies sans TOC, non?
Oui. Oui, oui, tout à fait.
Parce que nous, on avait parlé, je crois que c'était des phobies, quelqu'un qui a peur des chiens,
voilà,
et qui ne sort pas parce qu'il y a un chien juste...
Ouais.
Bon.
Voilà,
la
donc
peur,
là, il y a la phobie où il n'y a pas de TOC. Et puis, parfois, il y a certaines phobies qui déclenchent des TOC, justement, pour annuler, en quelque sorte, la peur.
Mettons voilà. La peur du chien, pour annuler cette peur-là, il y aura un TOC. Ce sera un mécanisme de défense pour annuler la peur.
Alors, dans la phobie, ce qui est le plus utilisé, c'est les mécanismes d'évitement.
Ah oui, d'évitement.
Donc la personne va tout faire pour éviter, si on prend le chien, de croiser un chien. Et puis, pour des phobies, par exemple, comme les microbes, où on ne sait pas comment les éviter... Finalement, on voit des personnes avoir des gants, ça, par exemple, tout le temps des gants, mais quand ça, c'est pas suffisant par rapport à la phobie, il peut y avoir une mise en place de TOC pour annuler.
D'accord. Voilà. Alors, d'autres types?
Voilà, alors c'est surtout qu'avec tout ça, on peut dire que ce qui caractérise le TOC, c'est qu'il s'inscrit dans un processus de pensée obsessionnelle en lui ajoutant soit d'autres pensées, soit des actes ritualisés pour les combattre parce qu'elles génèrent trop d'angoisse et de culpabilité ou trop de mal-être d'une façon générale.
Est-ce qu'il y a comme un cycle ?
Alors, le cycle, ça serait une pensée obsédante qui génère un mal-être qui va être où la personne va lutter contre ce mal-être par un rituel compulsif qui peut être soit en pensée, soit en action, qui va générer un soulagement.
Oui, passager.
Mais passager, parce que la pensée obsessionnelle va revenir.
Et le cycle,
et
va,
le
recommencer.
Cycle va recommencer.
Donc il faut autre chose. C'est une tentative, mais qui n'est pas juste.
Voilà, la personne est prise dans un cycle qui
répétitif,
revient répétitif.
Oui. Autre type de TOC, on peut dire.
Alors, après, on pourrait rajouter tous les TOC en lien avec la dimension religieuse.
C'est-à-dire
où certains TOC vont, en quelque sorte, se fixer plus particulièrement sur des aspects religieux. Alors, ça peut être soit au niveau des pensées obsédantes, soit au niveau des actions d'annulation.
Alors, vous pouvez nous préciser, par exemple, au niveau des pensées obsédantes.
Alors, on peut retrouver des scrupules par rapport au péché, ou encore des pensées vécues comme blasphématoires, par exemple, dans certaines pensées ou des images sexuelles à la messe ou en priant ou des choses comme ça. Et donc, on pourrait dire tout ce qui peut arriver dans une personne à un moment où elle considère qu'elle ne devrait pas avoir ces pensées-là, justement parce qu'elle est en lien avec un aspect religieux, soit de prière, soit d'aller à la messe ou autre. Et au niveau compulsif, on va retrouver en premier lieu soit l'obligation mentale de réciter des prières, mais pour le coup d'une façon mécanique.
Comme compter tout à l'heure.
Voilà, comme compter, pour annuler les pensées. Donc finalement, c'est pas...
On utilise la prière, mais d'une façon comme on utiliserait compter tout à l'heure.
Voilà, c'est pas une prière pour être en relation avec Dieu, c'est une prière pour annuler les obsessions. Ça peut être des rituels aussi, de faire le signe de croix, ou avec de l'eau bénite, de devoir sans arrêt mettre de l'eau bénite sur les objets, par exemple, ou chez soi.
C'est pas obsessionnel, quoi.
Voilà, ça devient obsessionnel. Ou encore la nécessité de se confesser sans arrêt, par exemple, tous les jours. Non pas parce que la personne fait des péchés, mais
par scrupule,
qu'elle a ses obsessions et que finalement
ça l'angoisse et ça la soulage
tellement que le moyen qu'elle trouve c'est la confession qui vient soulager un peu, mais comme la pensée obsessionnelle revient,
c'est à nouveau et on voit que c'est pas de l'ordre la confession. Et justement c'est là où le prêtre doit bien voir la différence.
Oui, alors souvent les prêtres ils se rendent compte quand ça quand c'est trop fréquent ou quand c'est pas justifié, quand c'est pas de l'ordre spirituel, à ce moment-là ils voient bien qu'il y a une problématique psychologique. Voilà, et puis à l'extrême, il peut y avoir parfois des pensées obsédantes qui vont déclencher des angoisses d'être possédé ou de damnation. Alors là, pour le coup, on parle pas de l'intensité de l'angoisse chez la personne, c'est extrêmement angoissant, qui va venir renforcer le cycle des obsessions et des compulsions. Voilà, et là, il y a... Alors, déjà avant, il y a besoin d'une thérapie, mais là, il y a besoin à la fois, souvent, et de la thérapie, et d'un travail avec un prêtre qui va rassurer la personne sur tout l'aspect spirituel, qui va lui donner le sacrement de réconciliation, le temps que la thérapie puisse avancer.
Voilà, d'accord. Voilà. Il faut aider, c'est une aide pour la rassurer en même temps et l'aider à passer ce...
L'aider à comprendre aussi que
c'est d'un autre ordre.
C'est un autre ordre que la dimension spirituelle, qu'elle est dans un trouble psychologique. Et
ça arrive quand même, ça peut arriver.
Ça arrive de temps en temps quand même, c'est pas négligeable.
Oui.
Alors, tout ça, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la religion ou la dimension spirituelle.
C'est un autre plan. C'est un trouble psychologique
qui se fixe sur un aspect de la vie personnelle, tout comme il pourrait se fixer sur d'autres aspects, d'ailleurs.
Alors, on va écouter tout de suite. C'est Daniel Guichard. On va reprendre dans quelques instants Daniel Guichard qui chante La tendresse. Voilà, qui adoucit les choses.
Radio Notre-Dame.
Vos deux.
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. C'est l'ordinateur qui... Voilà, c'est parti.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse.
Voilà, la tendresse. Alors justement, là, au début, on a eu un petit bug. Alors le bug, finalement, c'est le toc, c'est le.
Ça serait le toc de l'ordinateur s'il est répétitif.
Voilà, s'il est répétitif, il n'est pas compulsif, Guillaume. Hein, c'est pas compulsif. Donc là, c'est pas un toc de l'ordinateur. Voilà. Alors, Michel nous disait, est-ce que la psychiatrie considère des tocs comme une maladie mentale?
Alors, comme un trouble pathologique. Mmh. Hein, on parle de pathologie, on parle pas de maladie mentale. Maladie mentale, c'est dans le langage courant.
Oui, c'est ça. Voilà, on parle de pathologie.
On parle de pathologie, et donc il y a différentes pathologies, différents troubles.
Pathologie, trouble, oui, c'est ça.
Et là, le TOC est reconnu comme un trouble pathologique, oui.
Bon, voilà. Donc, on va poursuivre un peu parce que le temps passe très, très vite. Donc, là, on parlait de la dimension, le TOC en lien avec la dimension religieuse.
Hein. Voilà.
Alors, maintenant, on peut voir comment gérer les TOC.
Voilà, gérer ou guérir. Hein.
Ou guérir. Alors, peut-être guérir. Que... voilà, Monique, mais je ne crois pas qu'on puisse. On n'a pas le temps d'écouter Monique, je ne crois pas, parce qu'on ne pourra pas venir. Mais elle dit, je crois que les TOC, on ne peut jamais complètement les arrêter. Quand on en a découvert la cause, on peut les gérer, dit-elle. Alors, ce serait peut-être ça, alors, puisque. Alors, voilà.
C'est-à-dire.
Vous allez nous répondre, mais c'est en lien avec cette question.
Il y a deux aspects. D'abord, le TOC, on l'a vu, c'est un mécanisme de défense, mais qui sert aussi à l'adaptation.
Oui.
Donc, il ne s'agit pas de supprimer ce mécanisme-là, parce qu'on perdrait des capacités d'adaptation. Par contre, de supprimer, en quelque sorte, le symptôme TOC, c'est-à-dire de faire en sorte que ce mécanisme, qui peut être utile dans certaines situations, soit utilisé à bon escient et ne soit pas utilisé d'une façon inadaptée, ce qui est le cas dans le TOC.
D'accord.
Hein? Donc, l'objectif, c'est pas de supprimer le mécanisme, mais de faire en sorte qu'il ne soit pas utilisé d'une façon inadaptée, mais d'une façon adaptée.
Pour l'adaptation, oui.
Voilà.
Parce qu'on a toujours à s'adapter dans toute
situation. On supprime pas le mécanisme,
non,
mais on peut guérir le TOC.
Parce qu'un mécanisme, ça a un bon.
Ça a une utilité.
Une utilité, oui.
Ah, et même le TOC, il a une utilité psychique, mais.
Mais inadapté. Sont,
mais inadapté. Mmh. Ah.
Alors.
Voilà, alors, ouais. Ben, par rapport à soit la guérison, soit la gestion des TOC.
Oui, qu'est-ce qu'il faut en penser?
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau de sévérité qui peut être très différent. Hein. Mm. Voilà.
Oui, il y a des petits tocs et il y en a.
En cas de stress ou en cas de situation de deuil, par exemple, ou d'événements graves dans la vie. Mm. Et puis, il y a les tocs qui envahissent toute la vie de l'individu. Hein. Mm. Et donc, en fonction de la gravité et de la nature, ben, le traitement va être différent. Il sera plus ou moins long. Et il ne donnera pas toujours les mêmes résultats.
Alors, qu'est-ce que va être ce traitement adapté, évidemment, si c'est selon les cas, mais...
Alors, d'abord, il y a certains médicaments qui vont souvent réduire les tocs. Hein. Alors, on ne va pas développer les médicaments ici. Pour ça, vaut mieux voir un psychiatre. Hein. Voilà, mais il faut savoir qu'il y a des médicaments qui
peuvent aider, mais on peut pas en rester là, voilà. Quand même.
Et ensuite, y a la psychothérapie qui, alors, soit sur le processus en le rendant conscient,
processus du TOC.
Oui, et on va regarder comment un peu plus loin. Après, il y a l'analyse aussi, la psychanalyse, qui permet, elle, de rendre conscient les conflits sous-jacents et donc soit de réduire, soit de guérir du TOC. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, en fait, c'est l'association et de la psychothérapie et de médicaments qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats, voire la guérison dans un certain pourcentage de cas.
Et la relaxation, on en parlait tout à l'heure, ça peut
Alors,
être un...
Qui viennent encore en complément, c'est-à-dire qu'il y aura une prise de médicaments et psychothérapie, et puis on peut inviter la personne, en plus de ça, à faire de la relaxation, mais en complément avec déjà la thérapie et la prise de médicaments.
Alors, en quoi consiste la psychothérapie centrée sur le processus, alors vous nous disiez?
Voilà, alors, il s'agit de remonter le processus de mise en place du TOC, c'est-à-dire de faire le chemin inverse. Ce qui permet de rendre consciente toutes les étapes qui mènent au TOC. C'est-à-dire, le TOC, finalement, la personne... Dans le TOC, elle voit que le résultat final qui est l'action.
Mmh. Voilà. En remontant...
Je suis obligé de me laver les mains. Mais elle n'a pas conscience de tout le processus qui s'est déroulé avant. Mmh. Et donc...
Donc c'est ça, ça consiste à prendre conscience du processus avant.
Et du coup, à pouvoir agir et à arrêter le processus... en remontant les étapes une à une, jusqu'à arriver au déclencheur, et puis à stopper le TOC dès qu'il apparaît, en fait.
Oui, oui. Ouais. Parce qu'elle comprend le mécanisme, quoi.
Voilà.
Alors donc...
Ce qui veut dire de travailler sur la conscience de la personne, à quel moment ça intervient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a ressenti surtout, quelles pensées lui sont venues, enfin de rendre conscient tout ce qui s'est passé autour du moment ou avant le moment du TOC. Mmh. Et puis de faire des liens aussi entre les différentes étapes pour que la personne puisse apprendre à agir sur le processus et le modifier.
Alors, donc, autre forme de psychothérapie sur un autre type?
Alors, celle centrée sur le type de TOC. On a vu qu'il y a différents TOC liés à l'annulation, à la vérification ou aux phobies, ou sur des aspects religieux. Voilà, et la psychothérapie peut se centrer sur le type de TOC et remonter au déclencheur, de la même façon qu'avec le processus, pour aider la personne à apprendre à gérer ce qui en est à l'origine. Alors, dans les TOC de vérification, ça va être plutôt à travailler sur le doute ou sur la peur de catastrophe. Voilà, d'un voleur, du feu dans la maison ou des choses comme ça. Et du coup, la thérapie peut se centrer plutôt sur les peurs ou qu'est-ce qui fait que la personne doute d'elle-même.
La toque d'annulation.
Alors,
elle pourra se centrer sur.
On va se centrer sur les pensées et surtout sur les ressentis qui sont en général pas très conscients, qui font l'objet de l'annulation. Et donc, souvent, c'est d'aider la personne à prendre conscience de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle pense, à le dédramatiser, donc à déculpabiliser, et puis, finalement, d'apprendre à accepter que, voilà, ce sont que des pensées ou ce sont que des fantasmes ou que c'est pas grave de croiser le regard de quelqu'un, qu'il n'y a pas de problème, même si tout le monde regarde ses pieds dans le métro, mais... Voilà, c'est pas dramatique d'avoir croisé le regard de quelqu'un.
Alors ensuite.
Voilà. Après, là, il y a pour les phobies, c'est de mettre à jour les angoisses qui sont à l'origine, et souvent de travailler sur la séparation, parce qu'on l'avait vu dans une autre émission, la séparation est souvent au cœur de la phobie.
Alors. C'est ça, oui. Donc, en quoi consiste dans la thérapie centrée sur le doute dont vous parliez tout à l'heure? On n'a plus beaucoup de temps. Donc,
voilà. Alors, le doute, c'est un aspect récurrent des TOC. Oui. Et on peut faire tout un travail autour du doute et des angoisses qu'il suscite.
Oui.
Alors, du coup, il s'agit aussi de renforcer la confiance en soi, en tout cas dans l'aspect conscient de soi. Dans ce que la personne pense, voilà, si elle pense ça, elle a droit de le penser, et si elle le pense, elle a raison de le penser. Après, elle peut se tromper, que ça soit pas tout à fait ça, mais en tout cas, elle a droit de le penser. Sur ce qu'elle ressent, et puis de voir ce qui se passe autour du moment de doute. Alors, pour reprendre un peu ces différences centrées sur le processus, sur le type de TOC et sur le doute, finalement, quand on regarde la Gestalt thérapie, permet de travailler tous ces aspects, mais elle va travailler aussi sur un aspect qui est un des points importants liés au TOC, qui est la rupture de contact. C'est-à-dire
que de contact, oui.
Quand une personne est sous l'emprise d'un TOC, elle n'est plus en contact ni avec elle-même, ni avec l'environnement.
Elle est bloquée
dans sa tête, dans ses pensées et dans son obsession, en quelque sorte.
Oui. Donc elle n'est plus en contact ni avec elle-même, ni l'environnement. Oui.
Voilà. Et alors, il y a un adage de la Gestalt qui est de quitter la tête pour être dans son corps. Voilà. Et ça s'applique particulièrement aux problématiques du TOC, où on va ramener la personne à son ressenti, à être consciente de son ressenti. Et en nouant le contact avec elle-même et avec l'environnement, finalement, il n'y a plus de place pour avoir des TOC. Parce que la personne est
elle
en
est
relation.
Là,
elle est en relation.
Ouais. Oui, finalement, c'est une rupture de relation aussi. Il y a toujours...
Alors, le TOC, il y a une rupture de relation...
Oui. Avec soi, avec l'environnement.
Avec soi-même et avec l'environnement.
Oui.
Et donc, tout l'aspect spécial de la Gestalt de travailler sur le contact et la relation va permettre de guérir des TOC.
La psychanalyse, un mot
Voilà, alors la psychanalyse, elle va permettre la prise de conscience de l'inconscient et même si elle demande du temps parce qu'elle ne va pas se concentrer sur le symptôme, contrairement aux autres thérapies, mais sur les processus inconscients, ça va permettre de diminuer beaucoup les TOC et dans certains cas de les faire disparaître. Voilà, et dans le cadre de la psychanalyse, le rêve éveillé est souvent un outil qui permet de faire baisser tous les processus obsessionnels.
Un grand merci. D'un mot, vous pouvez répondre à Flore. Chaque fois que mon mari me sent bien dans ma peau, il faut qu'il me déséquilibre. Est-ce qu'il y a là...
Voilà, on n'est pas dans les tocs, on est dans un rapport de couple où peut-être peut-être que le mari a peur que
quand
son
épouse lui échappe
d'une certaine façon, si elle va bien. Souvent, les couples, il y a un effet vase communicant, c'est-à-dire quand il y en a un qui va bien, il faut que l'autre aille mal.
Pour l'équilibre.
Pour l'équilibre, alors c'est pas ce qui fonctionne le mieux.
Non, hein, non, non, idéal, sûrement pas. Oui.
Mais ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les couples. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent à pouvoir aller bien indépendamment de l'autre.
Ben oui. Être soi.
Voilà.
Sans compter sur l'autre comme une béquille, quelque part.
Voilà, faut pas que le bien et le mal s'équilibrent.
Merci, merci. Pascal, merci Marie-Françoise, au standard Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute, dans la nuit, notre invité sera le père Joël Guibert du diocèse de Nantes. Il exerce un ministère de prédicateur de retraite, a écrit une dizaine d'ouvrages qui aident à la croissance spirituelle. Demain, pour la fête du Sacré-Cœur, du cœur du Christ, il nous introduira d'une façon plus ajustée dans la spiritualité du cœur de Jésus à partir de son dernier ouvrage en date paru chez Teki. Rendre amour pour amour. Bonne nuit à tous et très belle fête du cœur de Jésus. À demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.